Vous écoutez Créa, le podcast sur la transition professionnelle présenté par Njila Coaching. Retrouvez Njila Coaching sur www.njilacoaching.com, LinkedIn, Instagram et Facebook.
Salut à toi auditeur, auditrice, comme toujours, j'espère que tu vas bien et que ton cercle aussi. Je suis Thierry Wetou, coach en transition professionnelle et je te souhaite la bienvenue dans Créa. Comme tu le sais, ce podcast est présenté par Njila Coaching et aborde les différents pans de la transition professionnelle de manière décontractée, décomplexée et surtout positive. On y aborde des faits, on y relate des parcours de vie pro et aussi on y reçoit des personnalités qui viennent partager leurs expériences. Créa, c'est une plateforme pour parler des histoires de vie pro dont on ne parle pas, ou peu, ou pas assez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'une reconversion professionnelle imposée suite à un accident. En 2019, les statistiques montrent qu'un travailleur suisse sur 15 a subi un accident de travail, rendant une reconversion pro quasi obligatoire. C'est le cas de mon invité du jour, qui a dû faire preuve de résilience et créativité pour se réinventer, après une situation liée à sa santé, lui forçant à repenser son avenir professionnel. D'abord éducatrice de la petite enfance, ensuite l'accident, comment elle a géré l'annonce, le verdict, imposant qu'elle ne puisse plus exercer ses fonctions, comment s'est organisé le plan d'action, la formation, la recherche d'un nouvel emploi dans le secteur recherché, et finalement l'exercice du nouveau rôle en qualité de coordinatrice psychosociale. On va tout découvrir et je lui remercie d'avance pour sa transparence. Mon invité dans Créa aujourd'hui s'appelle Anissa Neufil. C'est parti. Alors Anissa, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu?
Salut Thierry, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir ici pour cette discussion.
Le gâteau aux carottes était bon.
Délicieux, merci.
Okay, super. Alors si tu le veux bien, est-ce qu'on ne rentrerait pas tout de suite dans le vif du sujet? Raconte-moi un peu en détail quelle était ta profession exercée avant la reconversion pro.
Ok, donc j'ai fait un diplôme de la petite enfance en 2003. Okay. Avant ça, en fait, j'ai quitté le foyer familial et du coup, j'avais deux choix, soit l'HETS, haute école sociale, soit le diplôme de la petite enfance. Et ayant quitté le foyer familial, je me suis dirigée dans la petite enfance puisque c'était 3 ans et non 4 ans. Pas de liste d'attente, donc forcément bah, plus de facilité et plus de rapidité dans l'obtention d'un diplôme et donc du coup bah, plus rapidement autonome au niveau financier. Donc j'ai choisi un petit peu la facilité et le côté pratique.
Ok.
Voilà.
Et quelles étaient tes... est-ce que tu avais des qualités naturelles pour exercer ce métier ou...
Bah non, franchement, non. J'aimais bien les enfants, comme beaucoup de personnes.
Okay.
Après, c'est vrai que pourquoi l'HETS ou la petite enfance, c'est parce que j'ai toujours aimé être au contact des gens.
Uh-huh.
Et puis la petite enfance, parce que je sais qu'en s'occupant des enfants, on accompagne aussi des familles.
Okay.
Dans des situations des fois compliquées aussi.
Ok. Donc, tu as exercé ce métier pendant combien de temps?
14 ans.
Waouh.
Ouais. 14 ans dans la petite enfance, ouais, exactement, ouais.
Ok, ok. Et t'as fait différentes crèches ou t'es restée...
J'ai fait juste 2 crèches différentes, j'ai fait quasiment 10 ans au Paquis.
Ouais.
Donc il y avait une population très diversifiée en fait. Et donc j'ai beaucoup aimé pratiquer là-bas parce que du coup, j'ai vécu et accompagné des situations complexes, familiales, contextuelles. Donc il y avait vraiment ce côté social justement que je recherchais à la base.
Uh-huh.
Suite à ces 10 années, j'ai déménagé.
Okay.
Et puis donc là, en fait, j'ai simplement cherché un emploi plus proche de chez moi, parce que c'était compliqué au niveau des trajets. Et donc, j'ai été engagée dans une crèche à Plan-les-Ouates, où la population était clairement différente.
Okay.
Donc, un petit peu moins de challenge, un petit peu moins de défis, et un petit peu d'ennui, justement, qui s'est un petit peu... qui a commencé à arriver, ouais.
Okay.
Ouais, exact.
Et ensuite arrive cet accident.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé tout bêtement que j'ai pris un vélo qui nous était prêté à la crèche. Et puis, en pédalant, mon genou s'est bloqué. En sachant que sur ce genou, en fait, j'ai déjà plusieurs opérations. Donc, je savais que c'était un genou déjà défaillant.
Okay.
Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si abrupt, en fait. Donc, je me suis bloqué le genou.
Mm-hmm.
Prise de rendez-vous médical. Et puis, mon médecin m'annonce qu'il faut que je pose mon dossier à l'AI. C'est comme ça que ça m'a été annoncé.
Okay.
Donc voilà, un petit peu sous le choc, je ne m'y attendais pas.
Donc ouais, t'as vécu le choc.
Ouais.
Et en plus, toi, tu es encore aujourd'hui une grande sportive.
Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus limité du coup. Ouais. Mais ouais, j'étais une grande sportive. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a... Effectivement, il y a aussi le côté sport, le côté mental du sport que du coup, je perdais, en plus l'emploi.
Ouais.
Et puis bah, après, il faut rebondir. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où faut que j'y aille? En fait, je ne connaissais pas du tout les démarches auprès de l'AI, donc c'est l'assurance invalidité.
Ouais.
Donc j'ai été rejoindre ma sœur en fait, par tout hasard lors d'un pique-nique. Elle avait une amie, elle, qui travaillait à l'assurance invalidité.
Okay.
Donc du coup, elle a pris le temps de m'expliquer un petit peu... comment déposer un dossier,
ouais.
Quels étaient les documents à amener, etc.
Ok. Dans l'épisode 1 de la saison 1, il y a un épisode qui est consacré à la courbe du deuil suite à un licenciement ou une annonce de rupture. C'est un outil qui s'applique également aux changements brusques, comme le tien. Donc on passe par l'état de choc lié à l'annonce. Donc là, je fais référence à quand le médecin t'a dit de manière un peu abrupte que tu dois t'inscrire à l'AI. Il peut y avoir un état de colère et une envie de négocier la situation. Ensuite, un état de tristesse. Ensuite, s'ensuit l'acceptation, puis enfin la sérénité. Donc, ce n'est pas linéaire. Donc, tu peux passer d'un état à l'autre, revenir en arrière, repartir, sauter deux étapes, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à un état d'acceptation et de sérénité et que... Voilà, que tu acceptes la situation et que tu passes à autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à ton ressenti à l'époque?
Alors, le choc, effectivement, comme je l'ai dit, hein, oui, ça a été annoncé de manière abrupte, donc oui, j'ai été choquée. Après, je n'ai pas forcément eu de colère ou de tristesse parce que, vu que j'étais quand même un petit peu dans l'ennui de ma profession,
ouais.
Je me suis dit que c'était une aubaine, en fait.
Ok.
Non, mais vraiment, c'est... Ouais. Et voilà, l'assurance invalidité, effectivement, nous accompagne dans un parcours de réorientation.
Ouais.
Et du coup, ben, y a beaucoup de choses qui nous sont proposées.
Mm-hmm.
Donc, du coup, pendant 2 ans, parce que 2 ans, c'est le timing maximal, en fait, quand on a un arrêt-accident.
Ok.
Donc, je savais qu'après ces 2 ans-là, il fallait que je finisse ma réorientation, entre guillemets. Donc, j'avais 2 ans devant moi.
D'accord.
Pour profiter un petit peu de tout ce qui m'était offert et de tout ce que j'avais envie de faire.
Okay.
Donc voilà, donc pas de colère, pas de tristesse. J'ai juste saisi l'occasion.
Ok, donc tu as vite accepté la situation et puis tu es passé à autre chose.
Ouais, exactement. Ouais.
Ok.
Ouais.
Et quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Donc quand je dis obstacles, ça peut être autant sur le plan financier, sur le plan humain, c'est-à-dire ton entourage. Enfin, quels sont les challenges que tu as rencontrés?
Ouais, alors je pense que le premier obstacle, en fait, c'est le fait de devoir aller à l'assurance invalidité.
Okay.
Psychologiquement, pour moi, ça a été compliqué.
Ouais.
J'ai jamais dépendu d'aucune aide sociale. J'ai toujours été très autonome et indépendante.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que de devoir aller à mon premier entretien à l'assurance invalidité, ça a été difficile pour moi.
Okay.
J'avais vraiment l'impression de profiter de quelque chose qui m'était pas dû.
Okay.
Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un genou. Alors je peux marcher, je peux encore monter des marches. Donc j'avais l'impression, en fait, de pas avoir le droit à cette assurance invalidité.
Ouais.
Et du coup, j'ai été super bien accompagnée par une conseillère.
Okay.
Et puis, on a aussi un petit peu travaillé là-dessus, justement. Elle m'a dit bah, qu'on cotisait pour ça, puis que c'était aussi une assurance qui avait été mise en place pour la réorientation professionnelle.
Okay.
Mais ça m'a mis du temps. Je pense que c'était un petit peu difficile pour moi au début, en tout cas, de ce côté-là.
Tu me disais en off que tu es quelqu'un qui aimait bien avoir le contrôle de la situation.
Un petit peu, ouais. Et là, du coup, bah, j'ai perdu le contrôle complètement.
Ok.
Ouais, ouais.
D'accord. Ouais. Et après combien de temps, à peu près, tu as accepté que...
Je pense qu'il m'a fallu quand même bien 3-4 mois.
Ok.
Ouais. Et puis pour voir, en fait, où j'allais aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'effectivement, avec un diplôme de la petite enfance, j'ai aucune autre sortie de secours, en fait. C'est un diplôme qui est spécifique.
Mm-hmm.
Et du coup, bah, à part la petite enfance, j'avais aucune autre issue avec le diplôme que j'avais en main.
Mm-hmm.
Donc du coup, il fallait que je me réoriente. Donc on m'a proposé, donc l'AI, hein, l'assurance invalidité m'a proposé un coaching,
mm-hmm.
donc avec un coach professionnel. Ah oui.
Okay.
En professionnel et en vie privée. Donc c'était vraiment, j'ai fait un, comment on appelle ça, j'ai un blanc, un état des lieux de mes compétences pour savoir où je vais.
Bilan de compétences.
Merci. Okay. Bilan de compétences, c'est ça. Donc j'ai fait un bilan de compétences. Bon, pas vraiment de surprise, hein, parce que je savais où j'allais quand même, dans le social.
Ah, tu voulais rester dans le social?
Ouais, je voulais rester dans le social et je me suis dit justement que mon hésitation du début de mon diplôme, enfin entre HETS et petite enfance, bah que là j'allais pouvoir me réaliser en fait.
Ok.
Voilà, que j'allais pouvoir réaliser quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quasiment toujours.
D'accord.
Donc voilà, donc on a un petit peu regardé les issues, quels étaient les cheminements, les diplômes que je pouvais faire, en sachant que l'AI prend en charge les diplômes courts.
Mm-hmm.
Donc voilà, de manière générale, c'est 18 mois.
Ok.
Donc, en cherchant, en fouinant, bah, on a trouvé avec mon coach un DAS en management dans les institutions sociales.
DAS, Diplôme of Advanced Studies.
Exactly. Okay. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc, durant ces 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme en management. Et en parallèle, j'ai fait aussi un diplôme informatique et je me suis un petit peu... j'ai amélioré mon anglais. Voilà, j'ai pris des cours d'anglais aussi. Ouais.
Ok.
Ouais.
Et donc, le choix de la profession de coordinatrice psychosociale, on va venir après en détail à ça, mais comment est-ce que tu es arrivée à prendre cette décision-là?
Bah, ça a été compliqué, parce qu'en fait, le diplôme que j'ai obtenu, à la base, c'est pour pouvoir postuler dans des postes à responsabilité.
Ok.
Donc, tout ce qui est chef de projet, direction d'une institution.
Mm-hmm.
Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais faire.
D'accord.
Moi, j'ai besoin d'être proche des gens. Donc, du coup, j'ai fait ce diplôme-là, ça m'a apporté énormément.
Ouais.
Mais concrètement, pour la recherche d'un emploi, ce n'est pas ce qui m'était le plus utile.
Ok.
Voilà. Donc, une fois que j'ai eu l'obtention du diplôme, l'été dernier, du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu... ben, je me suis mise sur le marché de l'emploi.
Mais, donc, l'été dernier, 2020.
Hein. Exactement, okay. Ouais.
Mm-hmm.
Par contre, ben, les postes pour lesquels je pourvoyais, ben, c'était des postes sur lesquels mon CV et mes lettres de motivation ne correspondaient pas.
D'accord.
Parce que du coup, c'était des éducatrices spécialisées avec les personnes handicapées, les jeunes en rupture. Donc, j'avais pas de diplôme spécifique à cela.
Mm-hmm.
Donc, ça a été difficile. J'ai postulé partout. J'ai eu très peu de réponses. Les réponses que j'ai eues, c'était des réponses négatives.
Ah, en plus, je pense en 2020, avec, on était, je crois, au pic de la pandémie du Covid-19. C'était très compliqué.
Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Donc, du coup, le temps se faisait de plus en plus court.
Ouais.
Jusqu'au moment où, effectivement, j'ai fait marcher mon réseau. Et puis, grâce à ça, j'ai obtenu un entretien.
Okay.
Pour le poste justement de CPS à la Fondation Trajet.
Ok, d'accord. Okay. Quand tu as dû reprendre tes études, comment est-ce que tu t'es organisé? Parce que, petite info quand même, tu es maman d'un jeune ado.
Ouais.
Donc, comment est-ce que tu t'es organisé pour reprendre tes études? Je pense que ça faisait un petit moment que tu n'étais pas retourné sur les bancs de l'école.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé tout ça?
Ça a été dur, parce qu'en plus, ce diplôme-là, dans la volée dans laquelle j'étais, en fait, la plupart des gens avaient déjà un poste à responsabilité.
Okay.
Moi, je suis arrivée avec mon petit diplôme d'éducatrice.
Uh-huh.
Et c'est vrai qu'on abordait des sujets déjà dans une pratique professionnelle. Enfin, voilà, moi qui n'avais jamais pratiqué, il y avait beaucoup de concepts que j'avais la peine à comprendre au début.
Okay.
Voilà. Okay. Donc, je me suis retrouvée un petit peu perdue. Et puis après, je me suis dit que... c'était une formation qui m'avait été payée et offerte.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée quand même. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de louper ça.
Okay.
Donc, du coup, ça m'a aussi motivée. Puis j'ai découvert plein de capacités, plein de compétences, en fait.
Excellent.
Voilà, que j'ignorais sur moi.
Des compétences que tu utilises encore aujourd'hui dans le
ouais, tout à fait. Ouais.
Excellent. Donc, pendant ce processus, tu as été accompagnée par un coach.
Oui.
Donc, vous avez exploré les sphères privées et pro.
Oui, tout à fait.
Le même coach pour les deux sœurs?
C'était le même coach, ouais.
Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours en contact avec ce coach?
Non, je ne suis plus du tout en contact avec lui, non.
C'est ça, nous les coachs, on disparaît une fois que la mission est atteinte, on disparaît du paysage.
Ça peut arriver, oui.
Alors du coup, comment tu t'es organisée?
Ben, j'avais la chance justement de ne pas travailler en fait, puisque j'étais en arrêt.
Ouais.
Donc du coup, j'effectuais des stages, mais des stages à 50%, donc ça me laissait beaucoup de temps.
Uh-huh.
Donc je n'ai pas vraiment eu besoin de m'organiser. Surtout que ce genre de diplôme adulte, c'est 3 jours dans le mois de présentiel.
Uh-huh.
Et puis après, c'est une évaluation sur les 3 semaines qui restent du mois. Donc c'était assez simple pour moi de m'organiser. Ouais.
Ok.
Ouais.
D'accord. Aujourd'hui, tu es CPS, donc coordinatrice psychosociale.
C'est okay. Ça, ouais.
Tu t'expliquais avant avoir activé ton réseau pour te rendre visible pour un poste qui était disponible. Et donc maintenant, tu exerces ce métier. Concrètement, qu'est-ce que c'est?
Voilà. CPS, c'est un nom qui a été un peu inventé. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique pour être CPS.
Okay.
Donc, dans les CPS que je côtoie, il y a des psys, il y a des éducateurs sociaux. Donc, c'est vraiment un petit peu... Ouais, c'est un nom barbare, c'est un fourre-tout un petit peu. Hein.
Okay.
CPS, voilà, on y voit de tout horizon. En gros, CPS, c'est que j'accompagne en fait des personnes qui ont des troubles psychiques.
Okay.
Je les accompagne dans leur projet de vie.
Uh-huh.
Et pourquoi coordinatrice, c'est que je coordonne leur réseau en fait.
D'accord.
Donc, c'est des gens qui viennent à la Fondation de Trajet avec un réseau psychiatre, infirmier. Ça peut être aussi des coachs, hein, du coup. et du coup, mon rôle, c'est de coordonner tout ça et de faire le lien entre l'utilisateur, parce qu'il s'appelle comme ça là-bas,
okay.
et le réseau extérieur, okay. en gros, dans les grandes lignes.
Et donc, ouais, tu t'es resté quand même dans l'accompagnement avant, c'était dans la petite enfance, et maintenant, c'est des adultes.
Ouais, mais c'est complètement différent.
Ouais.
Dans la petite enfance, bah, on accueille des petits êtres qui n'ont pas de page déjà écrite dans leur livre.
Ouais.
Et avec les adultes, bah, voilà, on accompagne des adultes qui ont déjà pas mal de pages dans leur livre et puis des pages qui ne sont pas forcément roses, si j'ose dire. Donc, c'est très, très différent quand même.
Est-ce que tu interviens dans la réécriture de ces pages?
Alors, le projet de la fondation, c'est vraiment en fait de rendre la personne autonome.
Okay.
Donc, je dois être le moins... je suis présente, mais je dois juste leur insuffler un petit peu d'air.
Okay.
Et c'est eux, en fait, qui font tout le travail.
D'accord.
Donc, je ne fais pas d'animation, je mène des entretiens, effectivement. Mais c'est vraiment eux qui doivent être autonomes dans leur recherche et dans tout ce qu'ils font.
OK.
Oui.
Qu'est-ce qui reste de l'éducatrice de la petite enfance aujourd'hui ?
Oh, ben, je pense qu'il reste de la bienveillance, je pense qu'il reste de l'écoute, je pense qu'il reste bah, quand même des acquis. Hein. Travail en équipe, travail pluridisciplinaire. Donc, et puis les entretiens, même si je ne menais pas des entretiens individuels avec des adultes, je menais des entretiens avec des parents, avec des psychomotriciens, psychomotriciennes.
D'accord.
Donc il y a pas mal de choses que j'ai pu réutiliser quand même.
Ok. Et qu'est-ce que cette reconversion pro a changé dans ta vie ?
Ça a changé énormément de choses, vraiment. Bon, je travaille depuis peu, hein, depuis le 1er octobre, mais il n'y a pas un seul jour où je me suis dit « Ah, j'ai mal à la tête, je vais rester au lit » ou « Je suis motivée tous les jours à aller travailler
okay. »
et je m'enrichis quotidiennement et je pense que c'est ça dont j'avais besoin en fait.
Okay.
J'avais besoin de me nourrir mon cerveau et okay. puis bah, là, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, bah, j'ai une équipe aussi formidable. Je pense que ça joue hein, quand même dans une profession. Hein.
Bien sûr.
Donc, voilà, je suis très bien encadrée. C'est une belle fondation. Et ouais, je suis très, très bien là-bas.
OK.
Ouais.
Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, juste un tip concernant les transitions imposées, comme celle d'Anissa. Pardon, excuse-moi, Annika.
C'est pas grave, je te pardonne.
Bon, c'est les transitions imposées ou même dans la vie en général. Il y a trois zones qu'il est important de déceler. La première, c'est la zone d'adaptation. Donc, dans cette zone, nous n'avons quasiment pas de marge de manœuvre. Donc, on ne peut que s'adapter à ce qui se passe. Donc, typiquement, dans ton cas, c'est bon, bah, le verdict, l'accident est là. On ne peut que s'adapter, on ne peut que repenser le plan de carrière et essayer de voir de quelle manière on peut naviguer dans ces nouvelles eaux troubles. La deuxième zone, c'est la zone d'influence. Donc, dans cette zone, on a une marge de manœuvre quand même. Donc, dans le cas d'une reconversion imposée, là, ça serait de définir, par exemple, quelle est la sphère de formation. Quelles sont les formations, les stages qu'on pourrait suivre, entreprendre pour se rendre visible dans le nouveau marché du travail qu'on essaie de viser. Donc, c'est ce que tu as fait brillamment, d'ailleurs.
Merci.
Et il y a la zone de maîtrise. Donc, dans cette zone, on a un total contrôle de la situation. Donc, l'idée, c'est de rapidement, enfin, dans la mesure du possible, essayer d'identifier le périmètre des différentes zones. Ça permet de dédramatiser le contexte et aussi de pouvoir concrétiser des actions à entreprendre pour passer au travers de ce challenge. Voilà, c'est un peu le tip du jour que je voulais vous donner.
Et puis bon, bah là, si t'es OK, bah, j'aimerais bien moi aussi te poser des questions.
Bien sûr.
Donc, ma première question, c'est pourquoi as-tu eu l'idée ou comment as-tu eu l'idée de faire un podcast ?
Le podcast, parce que c'est... Enfin, je consomme pas énormément de podcasts, mais le peu que je consomme, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un format qui me convient. C'est ni trop long, ni trop, ça demande pas trop de logistique même pour quand t'es auditeur. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de me rapprocher des personnes qui sont en transition pro, de proposer une autre manière de rencontrer des personnes, de raconter un peu les transitions pro. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y a souvent une sorte de complexe dans des cas de licenciement ou des cas de burn-out qui amènent à des transitions pro. Et donc, l'idée, c'est un peu de décomplexer tout ça. J'aime bien dire libérer la parole parce que la parole libère. Donc, l'idée derrière le podcast, c'est vraiment ça, c'est de me rapprocher le plus possible des gens et puis de moi-même développer mon propre réseau. Ouais.
Ok. Ouais, je comprends et je pense que... Je pense que tu as tout à fait raison. Moi, quand j'ai écouté tes podcasts, je me suis reconnue un petit peu là-dedans. Et la manière dont tu amènes les choses, c'est vrai que c'est non-jugement, bienveillance. Je trouve que c'est assez fort. Donc, je pense que c'est...
Je te remercie.
Mais je t'en prie. C'est sincère. Justement, dans ce que tu dis au niveau que tu élargis ton réseau ou autre, je me demandais justement comment est-ce que tu trouves tes invités et puis si ces personnes-là sont facilement volontaires.
Alors, jusqu'à maintenant, ça a été très, très, très facile. Je suis même surpris moi-même. Il y a même des personnes qui m'appellent et qui me disent « j'aimerais faire un épisode ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui m'amènent... Par exemple, j'ai fait un épisode avec Fanny, qui, elle, m'a amené deux personnes, qui m'a permis de rencontrer deux personnes, donc Flora et Michael, qui sont des épisodes qui sont déjà disponibles. Il y a Jean-Bernard qui m'a amené Cyril. Donc, tu vois, c'est vraiment un effet un peu tiroir. Donc, les personnes m'amènent d'autres personnes. Et donc, c'est vraiment le but de Créa, c'est que moi, je puisse connaître le plus de gens possible. Et puis, être aussi exposé à différentes histoires qui peuvent aussi nourrir la manière dont j'accompagne les personnes en transition pro. Donc, ouais, ça se fait un peu naturellement. Okay. Les gens savent que ça existe et on me contacte.
C'est un échange de services, quoi. Tout le monde prend pour soi un petit bout, quoi.
Exactement.
Ouais, ok. Et puis, moi, j'ai une dernière question, en fait, qui me taraude. Je me demandais si tu avais l'intention de faire un podcast sur ta propre transition. Voilà.
Question. on ne m'a jamais posé cette question. Là, comme ça, oui. Enfin, là, tu me prends court, mais oui, ce serait intéressant de le faire, d'expliquer comment je suis passé d'un métier comptable à ressources humaines et ensuite aujourd'hui dans l'accompagnement de personnes en transition pro. Ouais, ce serait intéressant. Tu voudrais m'interviewer ?
Avec plaisir.
Ok, ouais. Je te prends au mot.
Oui, ça marche.
Ok, d'autres questions, monsieur, madame la juge ?
Non, je pense que j'ai plus de questions.
Ok. Ok. Si là, il y avait une personne qui écoutait l'épisode aujourd'hui et qui se sent inspirée, influencée et qui se retrouve dans une situation un peu similaire à la tienne il y a quelque temps, forcée de penser une transition pro, enfin une reconversion, qu'est-ce que tu dirais à cette personne ?
Moi, je dirais à cette personne qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est un petit peu bateau, mais c'est une vérité. Okay. Je pense que même au travers de l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Et puis, je pense que c'est un état d'esprit. Et puis, il faut savoir saisir chaque opportunité. Mm-hmm. C'est un peu facile, hein, parce que quand on est dans la situation, ce n'est pas évident de les voir ou de les saisir. Mais je pense vraiment qu'il faut essayer de se conditionner mentalement, surtout. Ouais. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et il faut faire avec. Donc, se conditionner et puis avancer tout droit. Et puis, je suis sûre qu'il y aura de toute façon de belles choses au bout du tunnel.
Dans Créa, je parle souvent de tribu. Une tribu bienveillante, soutenante. Qui faisait partie de la tienne ? Toujours partie aujourd'hui, d'ailleurs ?
Oui, ma famille. Mm-hmm. Ma famille, mes amis. Et puis, je pense aussi que j'ai rencontré quand même de très, très belles personnes lors de mes stages. J'ai fait des stages aussi.
Okay.
Puis, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aussi révélé un petit peu. Okay. Des stages dans lesquels je n'avais jamais pratiqué avec les ados ou autres. Et puis, des personnes hyper bienveillantes qui m'ont aidé à me relever.
Ok. Et avec lesquelles tu es toujours en contact aujourd'hui ?
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ok. Si je te dis, quand tu crées, tu te réalises. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Ça m'évoque, je dirais, j'imagine un tableau en fait. créer ouais, un tableau avec un chemin et effectivement de ne pas s'arrêter, de ne pas rentrer forcément dans des cases. Et créer, c'est justement ouvrir son esprit. Et je pense que pour se réorienter, peu importe de quelle manière, il faut ouvrir son esprit. Okay. Et puis enlever les œillères qu'on peut avoir des fois en pratiquant la même profession pendant des années. Voilà.
Ok. On arrive bientôt au terme de la discussion. Dans ma voiture ce soir, quand je rentrais, ou demain, je ne sais pas, si je vais découvrir un nouvel artiste, un ou une, et que je fais appel à toi, qui est-ce que tu me recommanderais?
Qu'est-ce que je te recommanderais?
Ouais, musicien ou chanteur, chanteuse?
Je ne m'attendais pas du tout à cette question. je pense que je partirais sur du Erykah Badu.
Waouh! Tu sais à quel point j'aime Erykah Badu?
Ben non.
Non, tu ne sais pas.
Non, je sais pas.
Je sais pas. Ok, bon, bah, on est raccord sur
bon,
ça.
Bon, bah voilà.
Je suis un grand, grand fan d'Erykah Badu.
Eh ben voilà.
Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode.
Merci à toi.
Un dernier mot pour la tribune Gila Coaching?
Ben non, toujours garder espoir et puis ben, écouter tes podcasts, ça fait du bien.
Merci.
Non, c'est vrai, ça fait du bien et voilà, de faire fonctionner le bouche à oreille.
Ouais.
C'est comme ça que ça marche aussi. Donc voilà. Non, un grand merci, c'était un bon moment de partage.
Merci à toi, Anissa. À bientôt,
plaisir.
J'espère.
À bientôt.
Voilà, c'est tout pour cet épisode de Créa, le podcast de la transition professionnelle, aujourd'hui avec Anissa Neufil. Cet épisode, tout comme les précédents, est disponible sur le site www.gilacoaching.com, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud. À partager dans ta sphère, à orner de likes, de cœurs et étoiles et autres artifices qui améliorera son référencement. Rejoins la tribune Gila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ouvert à toute suggestion de personnes à inviter et de sujets concernant la transition professionnelle, donc contacte-moi si tu souhaites échanger ou aussi pour un accompagnement dans le cadre d'une transition pro. Plus que jamais, cette année, Gila Coaching sera ton partenaire pour une transition professionnelle efficace. Comme toujours, c'est maintenant une coutume, une spéciale pour Lucy. Merci pour tout. Quant à toi, je te dis à tout vite et surtout n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises. On est ensemble. Salut !